L'amenait, le livre du peuple, section 1. Toutes choses ne sont pas en ce monde comme elles devraient être. Il y a trop de mots et des mots trop grands. Ce n'est pas là ce que Dieu a voulu. Les hommes, nés d'un même père, auraient dû ne former qu'une seule grande famille, unie par le doux lien d'un amour fraternel. Elle eût ressemblé, dans sa croissance, à un arbre dont la tige produit en s'élevant des branches nombreuses, d'où sortent des rameaux, et de ceux-ci d'autres encore, nourris de la même sève, animés de la même vie. Dans une famille, tous ont en vue l'avantage de tous, parce que tous s'aiment et que tous ont part au bien commun. Il n'est pas un de ses membres qui n'y contribue d'une manière diverse, selon sa force, son intelligence, ses aptitudes particulières. L'un fait ceci, l'autre cela. Mais l'action de chacun profite à tous, et l'action de tous profite à chacun. Qu'on ait peu ou beaucoup, on partage un frère. Nulle distinction autour du foyer domestique. On n'y voit point ici la faim à côté de l'abondance. La coupe que Dieu remplit de ses dons passe de main en main. Et le vieillard et le petit enfant, celui qui ne peut plus ou ne peut encore supporter la fatigue, et celui qui revient des champs, le front baigné de sueur, y trempent également leurs lèvres. Leur joie, leurs souffrances sont communes. Si l'un est infirme, s'il tombe malade, s'il devient avant l'âge incapable de travail, les autres le nourrissent et le soignent, de sorte qu'en aucun temps il n'est abandonné. Point de rivalité possible quand on n'a qu'un même intérêt, point de discussion dès lors. Ce qui enfante les dissensions, la haine, l'envie, c'est le désir insatiable de posséder plus et toujours plus lorsque l'on possède pour soi seul. La Providence maudit ces possessions solitaires. Elles irritent sans cesse la convoitise et ne la satisfont jamais. On ne jouit que des biens partagés. Père, mère, enfant, frère, sœur, quoi de plus saint, de plus doux que ces noms? Et pourquoi y en a-t-il d'autres sur la terre? Si ces liens s'étaient conservés tels qu'ils furent originairement, la plupart des maux qui affligent la race humaine lui seraient restés inconnus, et la sympathie eût allégé les maux inévitables. Les seules larmes dont l'amertume soit sans mélange sont celles qui ne tombent dans le sein de personne et que personne n'essuie. D'où vient que notre destinée est si pesante et notre vie si pleine de misère? Ne nous en prenons qu'à nous-mêmes. Nous avons méconnu les lois de la nature. Nous nous sommes détournés de ses voies. Celui qui se sépare des siens pour gravir sans aide entre des rochers ne doit pas se plaindre que le voyage soit rude. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne rassemblent en des greniers, et le Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas d'un plus grand prix qu'eux? Il y a place pour tous sur la terre, et Dieu l'a rendue assez féconde pour fournir abondamment aux besoins de tous. Si plusieurs manquent du nécessaire, c'est donc que l'homme a troublé l'ordre établi de Dieu. C'est qu'il a rompu l'unité de la famille primitive. C'est que les membres de cette famille sont devenus, premièrement, étrangers les uns aux autres, puis ennemis les uns des autres. Il s'est formé des multitudes de sociétés particulières, de peuplades, de tribus, de nations, qui, au lieu de se tendre la main, de s'aider mutuellement, n'ont songé qu'à se nuire. Les passions mauvaises et l'égoïsme d'où elles naissent toutes ont armé les frères contre les frères. Chacun a cherché son bien aux dépens d'autrui. La rapine a banni la sécurité du monde. La guerre l'a dévastée. On s'est disputé avec fureur les lambeaux sanglants de l'héritage commun. Or, quand la force, destinée au travail qui produit, est presque tout entière employée à détruire, quand l'incendie, le pillage, le meurtre marquent sur le sol le passage de l'homme, que la conquête intervertit les rapports naturels entre chaque population et l'étendue du territoire qu'elle occupe et peut cultiver, que des obstacles sans nombre interrompent ou entravent les communications d'un pays à l'autre et le libre-échange de leurs productions, comment des désordres aussi profonds n'entraîneraient-ils pas des souffrances également profondes? Les nations ainsi divisées entre elles, chaque nation s'est encore divisée en elle-même. Quelques-uns sont venus, qui ont proféré cette parole impie. À nous de commander et de gouverner. Les autres ne doivent qu'obéir. Ils ont fait les lois pour leur avantage et les ont maintenues par la force. D'un côté, le pouvoir, les richesses, les jouissances. De l'autre, toutes les charges de la société. En certains temps et certains pays, l'homme est devenu propriété de l'homme. On a trafiqué de lui, on l'a vendu, acheté, comme une bête de somme. En d'autres pays et d'autres temps, sans lui ôter sa liberté, on a fait en sorte que le fruit de son travail revint presque entier à ceux qui le tenaient sous leur dépendance. Mieux eût valu pour lui un complet esclavage, car le maître au moins nourrit, loge, vêtit son esclave, le soigne dans ses maladies à cause de l'intérêt qu'il a de le conserver. Mais celui qui n'appartient à personne, on s'en sert pendant qu'il y a quelque profit à en tirer, puis on le laisse là. À quoi est-il bon lorsque l'âge et le labeur ont usé ses forces? À mourir de faim et de froid au coin de la rue. Encore son aspect choquerait-il ceux qui ont toutes les joies de la vie. Peut-être leur dirait-il quand ils passent un morceau de pain pour l'amour de Dieu. Cela serait importun à entendre. On le ramasse donc et on le jette dans un de ces lieux immondes, de ces dépôts de mendicité, comme on les appelle, qui sont comme l'entrée de la voirie. Partout, l'amour excessif de soi a étouffé l'amour des autres. Des frères ont dit à leurs frères: nous ne sommes pas de même race que vous. Notre sang est plus pur. Nous ne voulons pas le mêler avec le vôtre. Vous et vos enfants, vous êtes à jamais destinés à nous servir. Ailleurs, on a établi des distinctions fondées non sur la naissance, mais sur l'argent. Que possédez-vous? Tant. Asseyez-vous au banquet social. La table est dressée pour vous. Toi qui n'as rien, retire-toi. Est-ce qu'il y a une patrie pour le pauvre? Ainsi, la fortune a marqué les rangs, déterminé les classes. On a eu des droits de toutes sortes parce qu'on était riche. Le privilège exclusif de prendre part à l'administration des affaires de tous, c'est-à-dire de faire ses propres affaires aux dépens de tous ou de presque tous. Les prolétaires, ainsi qu'on les nomme avec un superbe dédain, affranchis individuellement, ont été en masse la propriété de ceux qui règlent les relations entre les membres de la société, le mouvement de l'industrie, les conditions du travail, son prix et la répartition de ses fruits. Ce qu'il leur a plu d'ordonner, on l'a nommé loi. Et les lois n'ont été pour la plupart que des mesures d'intérêt privé, des moyens d'augmenter et de perpétuer la domination et les abus de la domination du petit nombre sur le plus grand. Tel est devenu le monde lorsque le lien de la fraternité a été brisé. Le repos, l'opulence, tous les avantages pour les uns. Pour les autres, la fatigue, la misère et une fosse au bout. Cela forme sous différents noms les classes élevées. De ceux-ci se compose le peuple.